nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous avons le plaisir donc de recevoir le docteur Godefroy Hirsch, qui vient parce que expert et parce que médecin et parce que responsable d'unité de soins palliatifs et parce que aussi président de l'association des soins palliatifs et donc qui a une vision large de tout cela, donc qui est à même de pouvoir nous expliquer un peu mieux ce qu'il en est de cette loi Leonetti dont on parle souvent et qui est malheureusement bien mal connue.
Alors cette loi est une loi vraiment fondamentale maintenant, au sens où elle pose des éléments de repérage. Et c'est une loi dont on parle, mais qui est encore bien mal connue des Français, et même bien mal connue des soignants ou du monde médical. Qu'est-ce que dit la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti? Elle va poser un certain nombre de points de repère de manière très ciselée, très fine. Son objectif global à la loi, c'est renforcer le droit des personnes malades. Je vous rappelle le contexte de cette loi qui a été mise en place suite à la première commission Leonetti. C'était après des affaires difficiles d'euthanasie qui était l'affaire Imbert, avec tout le bousculement sociétal que cela voulait dire. Et cette loi qui a été élaborée après de très nombreuses auditions, elle vient dire une chose: remettons la personne malade au centre des décisions qui la concernent. C'est ça, renforcer le droit. Comment? Premièrement, cette loi va condamner, refuser l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, cette loi va dire tout ce qui est inutile, inapproprié ou dont le seul objectif est le maintien artificiel de la vie n'a pas lieu d'être.
Donc l'acharnement thérapeutique, c'est bien l'acharnement thérapeutique des médecins, du corps médical, à l'égard du patient.
Oui, c'est, comme le dit la loi, tout ce qui est en trop, tout ce qui est inutile, tout ce qui est disproportionné par rapport à la situation du patient, relève de l'obstination déraisonnable. Et ça, c'est très important, parce que dire non à l'obstination déraisonnable, ce n'est pas, c'est mettre un point de repère, mais c'est surtout ouvrir la porte. Ouvrir la porte à quoi? Ouvrir la porte aux justes soins, aux soins adaptés. C'est-à-dire, tout soignant va se poser la question du « mais est-ce que ce que je propose ?» alors qu'il peut être un traitement, mais voire même des fois simplement un examen, autour de cette situation de fin de vie, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est juste? Pourquoi je le fais? Quel est l'objectif? Des exemples tout simples. Mais est-ce qu'il est juste et adapté de faire jusqu'au bout de la vie des prélèvements de prise de sang pour surveiller la glycémie, le sucre de quelqu'un qui est diabétique et est en fin de vie, avec chaque fois l'inconfort que ça provoque? C'est un tout petit exemple. Ouvrir la porte au questionnement du quel est l'objectif de ce que je vais mettre en place en termes de soins. Et ça, c'est extrêmement important. Donc le refus de l'obstination déraisonnable, c'est plutôt l'ouverture à la recherche du juste soin.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un refus du trop de soins. Du trop de soins, et ça veut dire qu'on ouvre aussi la porte à ce que la mort naturelle, c'est ça? Que la mort naturelle, qui est inévitable, enfin, reprenne peut-être sa place face à une médecine qui souhaitait, acharnement thérapeutique, toujours soigner, maintenir vivant ce corps qui était là. C'est ça que ça veut dire?
Voilà, ça veut dire non, il ne faut pas faire du trop, non, il ne faut pas s'acharner, non, il ne faut pas faire des choses inutiles qui n'ont pas de sens pour le patient. Et donc c'est excessivement important parce que le deuxième élément que va amener la loi, autour donc, puisque c'est la loi relative aux droits du malade et à la fin de vie, c'est de dire celui qui a à nous dire ce qui est important pour lui, c'est la personne malade. Donc la loi, elle va remettre la parole du patient au premier plan en disant « Toute personne a le droit de refuser tout traitement, même si ce refus a des conséquences sur la durée de sa vie. »
Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, donc, c'est pas d'acharnement.
Pas d'acharnement.
Donc, le corps médical doit savoir s'arrêter dans le soin. Et puis le deuxième aspect, c'est ce que vous dites, c'est le malade a le droit de refuser un traitement.
Absolument. Le malade a le droit de refuser un traitement, un nouveau traitement ou l'instauration d'un traitement, s'il juge que c'est du trop pour lui, qu'il n'en a pas envie, besoin. Mais ça peut aller très loin. C'est un droit qui est excessivement important, qui est même questionnant. Est-ce que, obligatoirement, la personne malade est toujours la personne la mieux placée pour juger de ça? Il y a peut-être beaucoup de questionnements, mais la loi a choisi de mettre la parole du patient au centre des décisions qui pourront être prises. Et ça, c'est quand même excessivement, excessivement important.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus assister, ou on ne doit plus assister, à ce dialogue des médecins entre eux face au malade qui est là sans exister, en disant on va faire ceci, on va faire cela, comme si le malade qui était là n'était pas là, quoi.
Absolument. Ceci réimplique une autre manière d'être en face de l'autre, de la personne malade, dans quelque chose qui serait non pas une relation égalitaire, mais dans quelque chose qui serait une relation respectueuse de ce que chacun peut amener.
Et pédagogique, donc.
Absolument.
Expliquer.
Expliquer. Le médecin, par exemple, doit, et c'est un des corollaires de la loi, par exemple, doit expliquer le traitement qu'il va proposer, le pourquoi, l'objectif.
Les conséquences.
Les conséquences en bénéfice ou en risque pour le patient. Par exemple, pour prendre autour des situations de maladie, une chimiothérapie, par exemple. Puis le malade, si tant est qu'il ait bien l'information, si tant est qu'il a besoin souvent de temps pour peser les choses, peut être à même et a le droit maintenant de dire « Ben non, ça docteur, vous voyez, ça ne... Non, je ne veux pas ou je ne veux plus. » C'est extrêmement important, ça rechange, remodifie la relation entre le médecin et le malade dans quelque chose qui la rééquilibre plus, qui met le médecin non pas dans une position d'un savoir, d'un pouvoir, mais dans une position qui est d'abord une position d'une nécessité non seulement de compétence, d'information de l'autre, et d'aller aussi faire avec la personne malade ce qui semble les éléments du projet thérapeutique ou de soins. Donc c'est totalement fondamental.
Alors il y a un autre aspect aussi de la loi Leonetti, c'est tout ce qui concerne la suite, les derniers moments, les derniers instants, l'expression de la volonté. Donc on peut dire que c'est les trois gros aspects, c'est ça ?
Alors la parole de la personne, voilà, puisqu'elle est dite comme étant l'élément de repère pour l'instauration ou l'arrêt ou la limitation des traitements en fin de vie, c'est ce que dit cette loi, c'est la parole de la personne. C'est ça qui fait un des éléments de repère. Comment faire pour qu'elle puisse être toujours présente? Alors, si la personne est en face de vous, si la personne est consciente, la loi dit, pour faire très court, sa parole prime sur tout. Mais si je ne suis plus conscient, si par exemple j'ai un accident vasculaire et que je suis dans le coma, j'ai été réanimé, amené dans un bon service de neuro, réanimé, puis parce qu'on pensait qu'il y avait une possibilité d'amélioration. Parfois, dans certaines situations, il est très difficile de peser. Puis, trois semaines après, je suis toujours moins inconscient. Et se pose la question du « mais est-ce que c'est pertinent de maintenir cette ventilation ? Est-ce que c'est pertinent de maintenir ce traitement qui vient soutenir le cœur ?» Comment je peux, moi, dire quelque chose alors que je ne suis plus en état de conscience? C'est là où la loi a prévu un certain nombre d'éléments. Premièrement, elle vient faire référence à une disposition qui avait déjà été prise dans une précédente loi du 4 mars 2002, la personne de confiance. La personne de confiance, ce n'est pas la personne qu'il faut appeler si quelque chose va mal. Ce n'est pas du tout ça. La personne de confiance, c'est quelqu'un qui va pouvoir être mon porte-parole autour de ces décisions-là. Je dis bien autour, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va décider. La décision, c'est normal. Elle restera toujours médicale. Mais qui pourra, parce que j'en ai parlé avec elle, parce que j'ai déjà évoqué des choses comme ça sur ce qui pour moi fait sens de la vie, qui pourra dire « Mais moi, là, ce que je pense de ce qu'elle m'a dit, c'est que je ne pense pas que pour elle, là, ça puisse avoir beaucoup de sens qu'on puisse faire ça, par exemple.
Donc c'est la personne qui exprime le mieux le malade quand celui-ci n'est plus en capacité de pouvoir s'exprimer.
Absolument, c'est la personne qui sera porte-parole. Si tant est qu'elle ait été désignée, mais vous savez que normalement, toute personne qui rentre dans un hôpital, on doit lui poser la question, est-ce que vous avez une personne de confiance ? Et si tant est qu'on ait aussi échangé avec elle autour de ces champs-là. Puisque là, nous sommes autour, toujours, des arrêts, limitations ou non-instauration de traitement autour de la fin de vie. La deuxième manière prévue par la loi pour amener la parole de la personne si elle n'est plus consciente, et là c'est une nouveauté, c'est ce qui s'appelle les directives anticipées. Toute personne a le droit d'écrire ses directives anticipées, qui sont donc ses souhaits, ses desiderata, concernant les traitements qui lui sembleraient ajustés, non ajustés, superflus en cas de fin de vie.
Donc ces directives anticipées sont quoi ? Sont données au moment où la personne arrive dans le service ? Elle les a toujours sur elle ? Il y a une date de péremption ? Enfin, comment ça se passe ?
Les directives anticipées, c'est un simple document avec l'identité de la personne, daté, signé, écrit de la main de la personne, ou si elle ne peut pas écrire, dicté par la personne avec la signature de deux témoins, quel qu'il soit, de la famille, un médecin généraliste, n'importe qui, et qui vont donc préciser la parole de la personne. Alors, ces directives anticipées, la loi a prévu qu'elles aient une validité de 3 ans, sauf si, durant l'espace de ces 3 ans, la personne rentre en état d'inconscience. Dans ce cas-là, elle perdure. Donc les directives anticipées ont une validité de 3 ans. Elles sont révocables à tout moment. Elles peuvent être modifiées, rechangées. Elles peuvent être gardées par le patient. Elles peuvent être gardées dans le dossier médical du patient. Ce qui est important, c'est que le patient en parle à son médecin traitant. Lui dire qu'elle a exprimé quelque chose au travers des directives anticipées. Parce que dans des situations où le patient n'est plus conscient et où les médecins ou l'équipe se posent la question de l'arrêt ou de la non-instauration du traitement, la loi les oblige à aller rechercher s'il existe des directives anticipées. Donc c'est une manière aussi très importante de pouvoir amener ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas. Les directives anticipées, ce n'est pas un testament. C'est simplement dire, voilà, parfois même en connaissance de la maladie, je pense par exemple à des patients qui sont atteints d'une maladie neurologique dégénérative qui s'appelle la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie difficile, invalidante, et qui, en toute conscience, élabore, parce qu'il y a des risques par exemple d'intubation, de ventilation dans des situations d'urgence, et qui disent non, moi je sais que ma maladie, on ne peut pas la guérir. Je sais que j'ai un risque à un moment d'être dans une situation de détresse, mais je ne souhaite pas à ce moment-là être intubé pour ensuite rentrer dans une période de vie où je serai dépendant de ma machine. Et bien, tout cet accompagnement des directives anticipées, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet vraiment de donner des éléments de repérage. Les directives anticipées, c'est un élément de repérage. Dans la situation où le patient est inconscient, la décision restera médicale, mais il est extrêmement important à travers les directives anticipées, la personne de confiance et au travers une procédure qui s'appelle la procédure collégiale, c'est-à-dire les décisions autour de l'arrêt des traitements en fin de vie, ça ne se prend pas tout seul. Ça se réfléchit à plusieurs, avec l'équipe, avec un autre médecin. C'est trop important, on ne peut pas faire ça dans la solitude. Non, il faut peser les choses. Tous ces éléments-là, c'est aussi ça qui renforce le droit des personnes en fin de vie.
Donc le cadre général pour l'instant, c'est de dire il faut que la personne qui se trouve être là, qui est toujours une personne, même si elle est muette, silencieuse, incapable de s'exprimer, a au moins 2 moyens de s'exprimer, les directives anticipées et la personne de confiance qui, toutes les deux, la représentent. Bon, alors ça, c'est le cadre général d'expression. Après, quid de... Quoi ? Les problèmes de sédation, les problèmes d'arrêt d'alimentation, les problèmes... Voilà. Comment, après, dans ces différents éléments, la loi règle ou ne règle pas les situations ?
La loi, comme je vous l'ai dit, vient donner des éléments de repère. La loi n'est pas là pour, entre guillemets, régler toutes les situations. La loi est là pour donner des éléments de repère qui permettent d'arriver à des décisions qui soient le plus juste possible ou les moins mauvaises possibles. C'est en ce sens où c'est une loi éthique, profondément éthique. La loi, elle dit, pour arriver à une décision qui serait la moins mauvaise possible, voilà ce qu'il faut faire. Écouter la parole du patient, ce qu'il a à dire, discuter ensemble, prendre des positions, des discussions ensemble. Et c'est après, toute situation est singulière. La situation autour des arrêts d'alimentation, c'est à chaque fois des situations extrêmement singulières. Il n'y a pas de possibilité de généralisation autour de ça. Si ce n'est que la loi nous dit, maintenant, il y a possibilité d'arrêter, et même l'alimentation, quand c'est une alimentation, quand c'est non pas une alimentation, mais une nutrition administrée artificiellement, il peut être légitime d'arrêter cette nutrition amenée de manière artificielle. Après ce possible-là, il va falloir qu'il prenne sens, et tout l'intérêt, par exemple, de ce qu'est la procédure collégiale, mais même des discussions éthiques autour des situations de fin de vie où se pose cette question. La loi permet, j'allais dire, énormément de choses. Elle permet surtout de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas en trop. C'est des fois très difficile de répondre à cette question. Ben, des fois, on peut dire, ben, pour l'instant, on ne sait pas trop, on continue, mais peut-être que dans 3 semaines, cette alimentation par voie parentérale qui était légitime, peut-être que dans 3 semaines, elle ne le sera plus. Et de dire, mais peut-être on reverra à ce moment-là, et à ce moment-là, on pourra l'arrêter. Il faut aussi, c'est un des éléments très importants, d'ailleurs la loi le prévoit, il faut aussi inscrire ça dans une temporalité. Il faut laisser le temps, au patient bien entendu, quand c'est lui qui dit les choses, mais aussi à l'élaboration d'une décision, il faut laisser le temps de l'élaboration. Ce temps-là, c'est souvent un temps riche, c'est un temps où se posent les choses, c'est un temps où la moins mauvaise des solutions apparaît.
Donc vous dites, et ça sera ma dernière question, vous dites que la loi Leonetti, donc, elle a 2 principes, et après, tout est un problème de situation. Les 2 principes, c'est quoi? C'est 1, il y a donc un droit réaffirmé du malade à refuser un traitement et une interdiction de l'acharnement thérapeutique. Ça, c'est le cadre. Et 2e chose que vous dites, c'est qu'il faut sortir de cette idée d'un malade muet qui serait entre les mains du médecin, et donc redonner voix, redonner parole, redonner volonté à celui qui ne peut plus à un moment donné l'exprimer. Et c'est les 2 éléments que vous avez indiqués, qui sont d'une part, dans le respect de la volonté, la personne de confiance et les directives anticipées. Et tout le reste, c'est ça que vous nous dites, tout le reste en découle.
Voilà. À partir de ces éléments de repérage-là, qui sont extrêmement forts, plus un autre qu'on n'a pas cité, qui est important, qui est l'article 2 de la loi, qui affirme la primauté de la lutte contre la douleur. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire, la loi nous dit, il est important de lutter contre la douleur. Et si ceci doit se faire à travers l'administration de thérapeutiques qui peuvent éventuellement avoir pour conséquence de raccourcir la durée de la vie du patient, potentiellement, cette séquence potentielle ne doit pas être un obstacle à la mise en place d'un traitement antidouleur efficace. C'est un autre élément de la loi, elle réaffirme la primauté du traitement contre la douleur. En pratique, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord que cette loi et les repères qu'elle donne ne sont pas suffisamment connus. Et c'est vraiment dommageable, pas suffisamment connus du grand public, pas suffisamment connu des professionnels. Deuxièmement, que cette loi qui donne des points de repère ne donne pas des solutions toutes faites, ne donne pas des solutions miracles, ne vont pas, mais donne des éléments qui permettent d'essayer de construire ensemble avec le patient lorsqu'il est là pour nous, en face de nous, ou avec sa famille. La parole des proches est prise en compte aussi par la loi, avec l'équipe, c'est-à-dire avec l'éclairage des autres, de pouvoir prendre les moins mauvaises décisions possibles autour de l'arrêt du maintien ou de l'arrêt ou de la non-instauration de certains traitements en fin de vie. Et en ce sens-là, en ce sens-là. Et quand on reprend les différentes affaires, pas uniquement françaises, mais à l'étranger, on s'aperçoit que c'est une loi extrêmement novatrice, que nous sommes bien plus en avance en France avec cette loi qu'on ne l'est dans bien d'autres pays européens. C'est une loi qui n'est peut-être pas facile à mettre en œuvre dans le sens où elle ne donne pas des clés toutes faites. C'est une loi qui renforce le respect et le droit de la personne. Mais quand on se met en défi d'essayer de prendre ce que nous donne la loi comme point de repérage et de voir comment ceci peut être éclairant, mis en œuvre, point de repère pour chaque situation difficile, on s'aperçoit que cette loi est vraiment maintenant un des éléments très importants de notre décision.
Godefroy Hirsch, je vous remercie beaucoup pour donc cette explication à la fois de la loi et de son contexte. Ça nous a permis effectivement de mieux rentrer dans cette application et je renvoie tous nos auditeurs donc à votre intervention du 9 septembre 2008 devant la commission Leonetti numéro 2 et je renvoie tous nos auditeurs à la commission Leonetti numéro 1 et numéro 2 avec des annexes abondantes et des auditions abondantes aussi, donc tout ça est sur internet pour mieux apprécier la portée de cette loi et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour nous faire part de vos impressions et de mieux nous permettre de comprendre ce que cette loi nous apporte. Merci bien.
Merci à vous de m'avoir accueilli.